BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Delphine Liu.
Les soldes d'hiver avaient été plutôt moroses. Eh bien, ce n'est pas avec les soldes d'été que les commerçants vont se refaire. On va décortiquer cette saison estivale 2015 avec nos invités. Nous avons en plateau Yves Marin. Bonsoir. Vous êtes expert en grande consommation au cabinet Court Salmon. Et puis, dans quelques instants, nous rejoindra par téléphone Didier Simon de Bessac, qui est le président de la Fédération des enseignes de l'habillement. Alors, justement, Didier Simon de Bessac, première question pour vous. Est-ce que vous avez déjà, les soldes se terminent ce soir, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà un premier bilan à vue de nez à nous confier?
Alors d'abord, juste une toute petite rectification, si vous le permettez. Je ne suis pas le président, mais le directeur général adjoint, effectivement, de la fédération, notamment des succursalistes de l'habillement. Alors les premières tendances, heureusement, n'ont pas été confirmées, puisque les deux premières semaines étaient sur une diminution de l'ordre de 5-8%, parfois davantage malheureusement. Et puis peut-être que c'est l'effet également des 6 semaines. Rappelez-vous, c'est la première fois depuis de nombreuses années, ou depuis 2009 en l'occurrence, où nous avons des soldes qui durent 6 semaines et non plus 5. Et donc les bonnes affaires ont été jusqu'en dernière ligne droite au rendez-vous. On devrait arriver, mais évidemment les chiffres ne sont pas complètement arrêtés. Mais globalement, sur des activités, en tout cas celles qui nous intéressent, c'est-à-dire à la fois l'habillement, mais aussi la chaussure, et puis en l'occurrence, j'ai une troisième casquette, que sont les grands magasins populaires, on devrait être à peu près à un niveau de zéro par rapport à l'année dernière. Alors là aussi, comparons des choses comparables, 6 semaines versus 5 l'année dernière. Et puis, il y a eu un autre phénomène qui était la fin des soldes flottants, remplacés en quelque sorte par des ventes privées. Donc c'est vrai que si on additionne l'ensemble ventes privées plus soldes, on arrivera bon an mal an à un niveau flat, comme on dit, donc autour du zéro.
Yves Marin, vous rejoignez cette analyse du côté du cabinet Court Salmon. Vous avez, je crois, calculé une très légère baisse de la fréquentation.
Voilà, nos estimations effectivement font aussi état d'un chiffre d'affaires qui serait étal par rapport à l'an dernier. Ce chiffre d'affaires étal effectivement se construirait de trois façons. Première manière, par un allongement de la durée des soldes de 5 à 6 semaines, ce qui a été évoqué. Deuxième point, par une légère érosion de la fréquentation de l'ordre de 1 à 2 points. Et troisième point, une légère diminution du panier moyen, c'est-à-dire du nombre d'articles contenus dans chacun des achats.
Donc cette diminution du panier moyen, elle est quantifiable, Yves Marin?
On l'estime entre de l'ordre de 2 à 2,5.
De Bessac, les Français n'ont pas pour autant délaissé les magasins. Plus des trois quarts ont quand même acheté au moins un article ces 6 dernières semaines. C'est quand même mieux que l'année dernière, non?
Oui, alors je confirme d'abord les éléments qu'on vient d'évoquer. Effectivement, le panier moyen est en légère diminution. Les Français se sont quand même rendus dans les magasins. On a parlé d'un effet canicule, négatif, positif. Personnellement, je ne sais pas trop quoi en tirer comme information. C'est vrai que le gouvernement avait annoncé par forte canicule de justement se rendre dans les magasins climatisés. Bon, ça a eu un petit effet peut-être positif. Je crois qu'au-delà des Français, il y a un phénomène qui s'amplifie, en particulier évidemment à Paris, mais pas que, et surtout à Paris bien sûr, ce sont les touristes. Il suffit de se promener dans le centre de Paris et autour notamment des grands magasins pour constater que les touristes sont là, et notamment de plus en plus des touristes venant d'Asie, et en particulier venant de Chine. Donc là aussi, peut-être que l'effet moyen, si je peux dire le panier moyen des consommateurs français est en légère baisse, il aurait été davantage en cumulé s'il n'y avait pas eu ces touristes qui clairement arrivent avec généralement un pouvoir d'achat un peu supérieur, et Paris reste une ville de shopping naturellement.
Oui, on va revenir sur l'exception parisienne, effectivement. Yves Marin, juste retour sur cet impact, cet effet canicule. Est-ce qu'il a vraiment été prégnant, notamment dans les centres commerciaux, ou c'est une légende urbaine?
Alors, effectivement, il a fait chaud. Hein, et l'effet canicule s'est plus fait sentir en province qu'à Paris. À Paris, il y a plus de centres commerciaux qui sont largement climatisés. En province, il y a plus de magasins indépendants qui sont moins climatisés. Et il y a généralement plus de trajets à faire en voiture. Donc, effectivement, cet effet chaleur a été défavorable à la province et plutôt favorable à Paris.
Alors, à chaque solde, on accuse les soldes privés, les pré-soldes, etc. Est-ce que, Didier Simon de Bessac, est-ce qu'il faudrait les interdire, selon vous, pour redonner le goût des soldes aux Français?
Alors, écoutez, je ne prendrai pas ce genre de parti parce que je me mettrai à dos certainement beaucoup de mes adhérents, donc je vais être extrêmement prudent. Moi, j'ai plutôt un conseil vis-à-vis des consommateurs. C'est d'être plutôt, je dirais, positif par rapport à toutes les demandes de cartes de fidélité, d'abonnements, quel type soit. D'abord parce que vous venez de le dire, il y a des ventes privées qui souvent sont extrêmement intéressantes. Il est plutôt intéressant d'acheter avant la période de solde, parce que pour être très clair, et évidemment, les produits qui sont, comme diraient les jeunes, les plus populaires, ceux qui se vendent le plus, sont ceux, évidemment, qui ne se présentent pas dans les soldes. Et puis, il y a quand même des détails qu'on ne retrouve pas nécessairement pendant les soldes. Les grandes tailles, les petites tailles, on les retrouve plus facilement que les tailles un peu plus standard. Donc moi, je m'interdirais en quelque sorte. En tout cas, je proposerais plutôt aux consommateurs d'être vigilants sur les cartes d'abonnement possibles, y compris sur la période de solde, puisqu'on voit des phénomènes, en particulier en fin de solde, où vous avez un effet parfois des multiplicateurs, à la fois de solde, d'un côté, et puis des réductions supplémentaires quand vous avez telle ou telle carte d'abonnement de telle ou telle enseigne. Donc j'aurais plutôt tendance à dire, les deux s'additionnent, et d'une certaine manière, c'est un peu comme au restaurant, c'est plus, on n'a plus le choix entre l'entrée et le dessert, là c'est entrée plat dessert quand on a à la fois les ventes privées et les soldes. Donc du point de vue du consommateur, je crois que de toute façon c'est gagnant.
La Fédération nationale de l'habillement propose de remettre à plat toute la réglementation. Elle propose notamment d'instaurer 4 périodes de solde dans l'année, un peu plus courtes, de 2 ou 3 semaines, mieux réparties en fonction des collections. Est-ce que pour vous, Didier Simon de Bessac, c'est une bonne option ?
Alors, je ne sais pas s'il faut les multiplier par 4. Ce qui est certain, c'est que la période de solde qui se termine maintenant, c'est-à-dire début août, bon, on est quand même en pleine période de vacances, donc c'est assez compliqué de gérer, y compris pour les enseignes, quelles qu'elles soient, en termes d'effectifs et de collaborateurs. Donc je ne sais pas s'il faut par exemple revenir à 5 semaines. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait peut-être éventuellement les commencer un petit peu plus tôt et ne pas les faire terminer le 3, 4, 5 août, parce qu'on est quand même, encore une fois, sur une période de vacances. Donc c'est vrai que coller, entre guillemets, les soldes avec des activités de textile où vous avez des collections beaucoup plus régulières. Bon, moi, je n'ai pas creusé la question et très clairement, mes adhérents ne me posent pas ce genre de questions aujourd'hui.
Yves Marin, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'en faire peut-être un petit peu plus, mais un peu plus courte ?
Alors, je ne suis pas sûr que le sujet soit un sujet calendaire. Les soldes représentent 20% des achats textiles globaux. Et il y a 20% des achats qui sont aussi en promotion en dehors des soldes. C'est-à-dire qu'il y a 40% des achats textiles en France, annuels, qui se font à prix bradé. 40% au chiffre d'affaires, ça représente un produit sur deux qui est vendu soit en solde, soit en promotion. Voilà, on peut estimer que la barre est déjà haute. Et ce chiffre d'affaires des soldes de 20% du textile, il est aujourd'hui de 20%, mais il était de 12% seulement dans les années 2000. Donc ça a très fortement progressé. Ouais. Et parce que la crise est passée par là, tout simplement.
Donc c'est plus un problème de consommation, de reprise de l'économie, selon vous, qu'une question de durée des soldes ?
Voilà, je crois que c'est plus un problème de marché, d'appétence et de consommation qu'un problème purement de soldes, vous avez raison.
Si je peux me permettre, il y a peut-être un effet également d'Internet. Je dirais qu'il y a un certain nombre d'années, naturellement, Internet n'était pas une voie de communication et encore moins d'achat, naturellement. Aujourd'hui, c'est une voie parallèle qui ne remplace pas, mais qui ne se substitue pas complètement à l'acte d'achat en magasin. Mais les enseignes, quelles qu'elles soient, développent de plus en plus leur propre site Internet et leur propre site d'achat. En particulier dans une logique, on y reviendra peut-être, de ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire de programmer son achat à distance, de pouvoir y réfléchir, etc., et de récupérer le produit commandé directement dans le magasin de son choix, c'est-à-dire de l'enseigne, évidemment. Et ça a des effets extrêmement positifs, d'abord parce que ça évite d'attendre un livreur qui n'arrive pas nécessairement à l'heure qu'on avait imaginé, qu'ensuite, quand on est dans le magasin, s'il y a une difficulté, s'il y a une taille qui ne va pas, on peut changer sur place, voire se faire rembourser. Et puis, si j'ai commandé une robe, et c'est naturellement un clin d'œil, si j'ai commandé une robe et que sur place je rencontre un chapeau pour lequel j'ai un coup de foudre, voilà, j'ai un acte d'achat éventuellement supplémentaire. Donc là aussi, Internet, je crois, est un phénomène qui, au-delà de ce qu'on a dit parfois, qui était ça va remplacer l'acte d'achat en magasin, je crois que ça a simplement complété et les enseignes le comprennent bien.
Alors effectivement, c'est l'une des exceptions de ces soldes avec Paris, on y reviendra tout à l'heure. Le e-commerce continue de grignoter des parts de marché aux magasins physiques.
Exactement. Voilà. Le e-commerce n'est plus sur les croissances d'il y a quelques années. Néanmoins, il continue de progresser plus rapidement que les magasins physiques. Cette année, on estime que pour des soldes qui seront à zéro d'évolution de chiffre d'affaires au global du marché de la mode, le segment du web, du digital, va lui progresser de 5 à 6%. 5 à 6% cette année contre 11 à 12% l'année dernière. C'est-à-dire que la croissance se tasse. Néanmoins, elle reste plus forte que celle des magasins physiques.
On voit qu'aujourd'hui, il est peut-être plus tellement pertinent d'opposer magasins physiques, magasins en ligne. ligne, puisque toutes les grandes enseignes, finalement, hein, se sont adaptées et proposent, elles aussi, justement, de pouvoir commercer en ligne sur leur site.
Exactement. Il y a de plus en plus de convergence entre les acteurs du web et les acteurs traditionnels, effectivement, qui se rejoignent pour cette prise de part de marché. L'élément nouveau quand même de ce cru 2015, c'était l'événement promotionnel mondial d'Amazon, qui a lancé le Premium Day fin juillet, qui était un élément de novation dans le paysage commercial et qui a dû quand même grappiller des parts de marché. Les chiffres d'Amazon sont secrets. On ne les connaît pas, mais néanmoins, ça a dû peser cette année.
Didier Simon de Bessac, vous confirmez ça, ce fameux Premium Day de Amazon, vous l'avez ressenti ?
Là aussi, c'est extrêmement difficile. On vient de le dire à l'instant, les chiffres d'Amazon sont toujours extrêmement compliqués à obtenir, pour ne pas dire totalement confidentiels. Donc, mais il est évident que l'innovation, le fait de pouvoir communiquer dessus, l'image très pure player, on va dire, d'Amazon joue fortement. Mais encore une fois, moi, je n'opposerai pas les pure players et les magasins. Les magasins, très clairement, avaient deux ou trois longueurs de retard. Ils sont en train de les combler, ça c'est évident. Certains à vitesse extrêmement forcée et avec souvent beaucoup d'intelligence. Et là aussi, on rappelle quand même que quand vous êtes en magasin, que vous cherchez la taille que vous voulez, bah, c'est pas mal d'être d'abord sur Internet pour savoir si le produit existe toujours et le cas échéant, de le récupérer dans des délais raisonnables.
Voilà. Quelles sont les marques ? Est-ce qu'on sait quelles sont les marques qui ont été le plus visitées pendant ces soldes de 2015 ?
Moi, je réponds jamais à ce genre de questions parce que, évidemment, si je parle d'une marque, je me mets à dos l'ensemble de mes autres adhérents. Donc, je préfère mettre un joker, si je peux me permettre, sur cette question.
Yves Marin, vous avez, vous, ce type d'information ?
Alors, les soldes sont traditionnellement une prime au gros, si on peut dire. Donc, c'est naturellement les leaders du marché, autant sur le segment de la femme que sur l'homme, qui ont été les gagnants des soldes, mais un peu comme chaque année. Et après, il y a eu des opérations spectaculaires. On a vu le printemps, par exemple, l'enseigne parisienne du printemps, arborer une façade complètement redécorée de rose, qui était extrêmement événementielle et qui a dû capter du trafic, notamment du trafic de touristes étrangers.
Didier Simon de Bessac, est-ce que, bon, si vous n'avez pas ou vous ne voulez pas nous confier les grands gagnants, les grandes enseignes gagnantes de ces soldes d'été, est-ce qu'on sait ce que les Français sont allés acheter dans les magasins pendant ces soldes ?
Alors, je vais quand même essayer, au-delà de ma pirouette juste avant et mon petit clin d'œil, je vais quand même essayer de vous répondre en partie. Parce que dans nos activités, l'Alliance du commerce que je dirige représente encore une fois les succursales de la chaussure, de l'habillement et aussi les grands magasins et magasins populaires. Clairement, là, je peux faire des différences selon les trois types d'activités. La chaussure continue de souffrir fortement. Et là, pour le coup, je pense que l'Internet et encore une fois les pure players en sont un début d'explication. L'habillement, on en a pas mal parlé. On est sur des tendances qui sont extrêmement variables d'une enseigne à l'autre. Et encore une fois, entre Paris et les régions, on fera aussi une différence. Par contre, très clairement, les grands magasins populaires sont des activités en particulier tournées vers le tourisme international, sont les activités qui s'en sortent le mieux. Donc, voilà, quand vous êtes dans un grand magasin, et vous en avez cité un, il y en a d'autres, évidemment, c'est sur Galeries Lafayette, BHV, Le Bon Marché en particulier, très clairement, on voit que les touristes achètent l'ensemble des produits que l'on trouve dans ces grands magasins. Donc, il n'y a pas un produit qui s'en sort le mieux. Alors j'aurais juste peut-être un tout petit focus sur ce qui est solaire. Moi j'ai eu des chiffres qui étaient assez hallucinants pour une de ces enseignes où dans une journée ça se chiffrait en dizaines de milliers d'euros et la journée n'était toujours pas terminée au moment où j'ai eu des chiffres. Donc voilà. Mais on est évidemment sur un produit qui est très très lié à la saison. Si on n'achète pas ses lunettes de soleil en ce moment, tout comme si on n'achète pas ses tongs, je suis pas sûr qu'on va les acheter en plein hiver.
Vous évoquiez à l'instant les touristes, Didier Simon de Bessac, justement, hein, ces touristes, Yves Marin, ont permis aux soldes dans la capitale performer plutôt pas mal.
Oui, ça a été une fois de plus un facteur clé de succès pour la capitale qui conserve un pouvoir d'attraction extrêmement élevé. Et effectivement, ça a contribué à stabiliser le chiffre d'affaires du textile, de la maroquinerie et de la bijouterie dans la région parisienne. Et c'est un facteur dont n'a pas bénéficié malheureusement la province. C'est aussi une des raisons qui explique le différentiel de croissance entre la région parisienne et la province.
Didier Simon de Bensac, vous avez des chiffres justement un peu plus précis à nous donner sur ces soldes dans la région parisienne ?
pas encore sur les soldes, malheureusement, mais je peux vous dire que, par contre, le pourcentage de clients qui achètent dans ces grands magasins en particulier est en augmentation permanente, j'allais dire. Même les magasins qui étaient ceux les moins bien placés en termes de zones touristiques voient décoller complètement leur chiffre. Et là, je ferai juste une parenthèse, on n'est pas tout à fait au cœur du sujet, évidemment, des soldes, mais c'est quand même indirectement lié. Il est clair que pour les enseignes, en particulier pour les grands magasins parisiens, évidemment, l'ouverture future dominicale, en particulier dans les zones touristiques internationales, sont quelque chose qui est très, 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 très attendu, parce que là, clairement, on est sur un chiffre d'affaires potentiellement supérieur. C'est pas un chiffre qui remplace le consommateur qui viendrait pas le samedi et qui viendrait le dimanche et qui viendrait du coup pas le lundi. Ce sont vraiment les touristes internationaux qui, très clairement aujourd'hui, et en particulier dans les tours opérateurs, font le tour d'Europe et le dimanche, ils vont à Londres. Donc c'est à Londres qu'ils vont faire leurs courses le dimanche. Ça peut paraître anecdotique, mais on parle quand même de chiffres qui peuvent être de 5 à 8% d'augmentation de chiffre d'affaires avec des ouvertures dominicales.
Yves Marin, vous avez travaillé sur cette future ouverture dominicale dans les grandes zones touristiques. Vous avez fait des projections.
Oui, et ces projections rejoignent absolument les deux chiffres qui viennent d'être évoqués. On est effectivement sur des croissances de chiffres de 5 à 8%, alors différentes selon les acteurs, mais donc il y a un vrai enjeu économique à la clé, c'est vrai.
L'an dernier, près de 4000 indépendants ont mis la clé sous la porte. Est-ce que ça devrait être, selon vous, Didier Simon de Bessac, la même chose cette année?
Alors moi, j'ai aucun élément sur ces activités, puisque nous représentons des succursalistes, donc forcément des magasins, je dirais, d'une enseigne avec multi-magasins. Donc je ne connais pas, et ce ne sont pas mes activités. Là aussi, il peut y avoir un effet quand même d'ouverture dominicale pour les petits commerces. Alors je ne dis pas que c'est facile à organiser quand on est un petit commerçant avec 1, 2, 3, 4 salariés. Mais j'allais dire, quand vous êtes dans une zone touristique internationale, clairement, là aussi, il n'y a aucune raison que le magasin du boulevard Haussmann bénéficie d'une clientèle supplémentaire et pas le petit magasin qui se trouve dans les rues parallèles, voire éventuellement même à 100 mètres. Donc moi, j'ai aucun élément de chiffre puisque ce ne sont pas mes activités. Il est clair que les touristes internationaux devraient quand même là aussi pouvoir permettre à ces petits magasins de continuer pour certains à se développer et en tout cas à tenir face évidemment à une concurrence qui est de plus en plus forte.
Yves Marin, pardon, vous avez justement travaillé là-dessus. Est-ce que l'année 2015, en termes d'emploi, de perte d'emploi dans le secteur, va se poursuivre?
Le marché du textile pèse 28 milliards. Ce marché de 28 milliards a régressé de 13% sur les 7 dernières années. Donc 13% de 28 milliards, ça fait, on a perdu 3 milliards qui sont partis en fumée, ou plutôt en téléphone mobile ou en loyer, pendant les 13 dernières années. Et c'est un fait que cette baisse de chiffre d'affaires s'est faite plutôt au détriment des inorganisés. L'an dernier, sur un marché qui évoluait à la baisse de moins 0,7%, les indépendants chutaient de moins 3,3%, donc c'est-à-dire 5 fois plus que le marché. Donc naturellement, ces phases de d'écrémage de marché, ces phases de crise, sont des accélérateurs darwiniens qui sont effectivement qui se font au détriment des plus faibles.
Didier Simon de Bessac, dernière question pour vous. Les soldes donc se terminent ce soir, mais ça va pas vraiment se terminer. Il va encore y avoir des braderies ou des ventes privées encore.
Oui, il y a toujours quelques bonnes affaires à faire. Encore, évidemment, et comme je disais tout à l'heure, pour peu qu'en plus on bénéficie d'une carte de fidélité, ça va évidemment se poursuivre. Juste un mot quand même pour mémoire, les enseignes, quelles qu'elles soient, sont de plus en plus évidemment prudentes sur leur gestion de stock. C'est-à-dire que là aussi, avant d'entamer une période de solde, il faut essayer d'éviter, je dirais, d'avoir un stock trop important. Donc tout ça, c'est quand même très très bien maîtrisé. Pour autant, en toute fin de période de solde, encore une fois, il y a de belles affaires à faire. Et donc moi, j'incite les clients qui peuvent le faire jusqu'à ce soir encore d'y aller. Et puis très clairement, de continuer à fréquenter les magasins dans les tout prochains jours, parce qu'il y aura encore quelques jolis produits à acheter sans problème.
Merci Didier Simon de Bessac. Vous étiez donc par téléphone avec nous, de la Fédération des enseignes de l'habillement, et puis Yves Marin, donc expert grande consommation au cabinet Courte Salmon. Le grand journal continue après le journal d'Aurélie Blon. On a tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Delphine Liu.
et changer sa maison pour partir en vacances. Séduisant, parfois aussi un peu inquiétant. Alors l'échange de maison, comment ça marche? Emmanuel Arnaud, bonjour.
Bonjour Delphine.
Vous êtes fondateur du premier réseau social d'échange de maison en ligne. Ça s'appelle Guest to Guest. Guest to Guest, ça existe depuis 4 ans, c'est ça? Comment est née l'idée de créer cette start-up?
Alors j'étais membre d'un autre site d'échange de maisons et je n'ai pas réussi à organiser un échange entre Paris et Florence au moment du réveillon pour le 1er janvier 2011. Et j'ai pas réussi à organiser cet échange alors même qu'il y avait des personnes qui avaient une maison à Florence qui était disponible à mes dates et qui a priori ont été prêts à me la prêter sauf qu'ils ne voulaient pas venir à Paris. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée des guest points, une monnaie virtuelle sur le site qui permet de faire des échanges non réciproques. Un bon exemple de l'utilisation des guest points, c'est supposons que vous ayez par exemple une maison ou un appartement à La Rochelle avec un site traditionnel d'échange de maisons. Si vous voulez aller à New York, ça sera très difficile parce qu'il y a peu de New-Yorkais qui veulent venir à La Rochelle. Sur Guest to Guest, vous pouvez accueillir quelqu'un qui a envie de venir à La Rochelle, par exemple un Parisien, qui va vous donner des guest points avec lesquels vous irez vous-même à New York. Et donc c'est cette monnaie qui permet de rendre beaucoup plus simple l'échange de maison et d'en faire beaucoup plus.
Donc c'est l'une des spécificités de Guest to Guest par rapport aux autres géants du secteur, je pense notamment à Home Exchange par exemple.
Alors tout à fait, c'est l'une de nos trois innovations lorsqu'on s'est lancé sur le marché. La deuxième innovation, c'est le fait d'être complètement gratuit à l'inscription et gratuit à l'échange de maison, là où les concurrents, dont celui que vous avez cité, vous feront payer un abonnement de l'ordre de 100 à 500 euros à l'année pour pouvoir mettre votre maison sur le site. Sur Guest to Guest, c'est complètement gratuit. Et notre troisième innovation, c'est le fait d'être organisé comme un réseau social. Ainsi, sur Guest to Guest, j'ai mes amis et donc mes amis d'amis, avec lesquels il est beaucoup plus rassurant de faire un échange. J'ai aussi des personnes qui sont membres du même club. Donc c'est un groupe fermé sur Guest to Guest, où on peut avoir par exemple des salariés de la même entreprise, comme BNP Paribas, JC2Co ou Air France qui nous ont fait confiance, voire les membres de la même association, comme des associations d'anciens élèves d'école. Et il y a aussi des groupes ouverts qui permettent de se retrouver autour de styles de vie. À titre personnel, par exemple, j'ai 3 enfants en bas âge. Lorsque je pars en vacances, j'échange au sein du groupe des parents d'enfants en bas âge et je trouve une maison dans laquelle il y a un lit barreau. S'il y a une piscine, elle est sécurisée. S'il y a un escalier, il est sécurisé. Et il y a tous les accessoires, comme la chaise haute, etc., qui vont bien pour pouvoir faire l'échange de maison.
Alors, vous avez combien de maisons aujourd'hui? D'ailleurs, c'est pas simplement des maisons. J'imagine qu'il y a aussi des appartements.
Tout à fait. On a des maisons, des appartements, combien? Quelques châteaux, quelques bungalows. Alors, aujourd'hui, on est de très très loin le leader mondial avec 150 000 maisons. Et on est plus gros que les numéros 2 et 3 mondiaux, qui eux avoisinent les 60 000 maisons.
Vous êtes présent dans combien de pays?
On est présent dans 187 pays. Alors, on n'a pas encore eu des échanges dans tous ces pays-là, mais quasiment.
Donc, vous êtes principalement européen ou bien présent dans, sur tous les continents?
Alors, les 187 pays sont bien sûr sur tous les pays, mais nos principaux pays sont la France avant tout, parce que nous sommes un site français, malgré notre nom taillé pour conquérir les marchés internationaux. Et ensuite, on a l'Espagne, l'Italie, qui sont 3 pays très très forts chez nous. Et ça tombe bien parce que c'est le plus gros pays en termes d'attraction de touristes étrangers.
Quid des États-Unis ou en tout cas des pays anglo-saxons qui sont souvent assez friands de ce type d'échange?
Tout à fait. Alors, on a des maisons aussi aux États-Unis, en Australie, et on couvre assez bien l'Amérique du Sud, avec notamment le Brésil.
Vous avez combien de membres aujourd'hui?
Alors, en fait, nous, on communique toujours sur nos chiffres de maisons, parce que vu qu'on fait de l'échange de maisons, il y a le même nombre de membres qui sont intéressants sur le site, c'est-à-dire que de maisons, donc 150 000 aujourd'hui. Ensuite, dans nos bases de données, on a plus de 300 000 membres, concrètement.
Il y a un portrait type, quand même, néanmoins, de l'utilisateur guest to guest, enfin du membre de ce réseau social.
Tout à fait. Alors, tout d'abord, on vise les familles. Les personnes qui ont des enfants, le plus souvent en couple, mais aussi les familles monoparentales, et ensuite plutôt les retraités qui vont avoir souvent du temps libre et l'envie de voyager. On vise beaucoup beaucoup moins les jeunes étudiants qui ont d'autres sites, comme par exemple Couchsurfing, que certains de nos téléspectateurs connaissent bien.
Alors justement, c'est quoi la différence avec les autres types de sites d'économie collaborative comme ça, spécialisés dans le tourisme? On vient de citer Couchsurfing, c'est quoi la différence entre Guest to Guest et ce site internet?
Alors, Couchsurfing, au niveau du service, vous offre la possibilité d'aller dormir sur le canapé de quelqu'un alors qu'il est là. Et donc, s'adresse essentiellement à des personnes qui sont soit étudiantes, soit célibataires, backpackers, donc entre 18 à 25, 30 ans. Et nous, le service que vous aurez grâce à Guest to Guest, c'est de bénéficier de l'ensemble de la maison ou de l'appartement en l'absence de la personne qui vous accueille. Et donc, c'est exprès pour les familles et les retraités qui vont partir en vacances. Une manière de penser à Gas to Gas, c'est de se dire que c'est un peu le couchsurfing des familles et des retraités.
Alors l'autre grand géant du tourisme collaboratif, c'est évidemment Airbnb. Là, j'imagine que la grande différence, c'est la gratuité.
Exactement. Sur Airbnb, vous allez payer chaque nuit que vous passez chez la personne. Et donc la personne vous accueille, vous, bien sûr, mais accueille beaucoup votre argent aussi. Alors que sur Gas to Guest, c'est vraiment l'hospitalité gratuite. Vous allez aller chez quelqu'un, il n'y aura aucun échange d'argent entre l'hôte et l'invité. Et ça, ça change tout, aussi bien au niveau du budget finalement des vacances, mais aussi ça change tout au niveau de la relation. C'est-à-dire que dans la mesure où il n'y a pas une relation commerciale, on va avoir une différence de nature dans les propos et la manière d'accueillir. Typiquement sur un site de location Airbnb ou un autre, la question que la personne se pose, lorsqu'elle l'invité se pose, c'est « est-ce que j'en ai eu pour mon argent ?» Et la question que l'autre va se poser, c'est « est-ce que j'aurais pu demander plus ? Est-ce que j'ai bien maximisé ma rentabilité ?» Sur un site comme Échange de Maison, comme Guest to Guest, la question que la personne se pose, c'est « est-ce que j'ai été un bon hôte ? Est-ce que j'ai été un bon invité ? Quelque part, est-ce que ma mère serait fière de moi parce que j'ai bien su accueillir et que les personnes chez moi ont été heureuses ?»
Il y a un autre site qui me semble ressembler pas mal au vôtre, c'est « Night Swapping ».
Tout à fait. Alors ça fait partie des petits sites français qui se lancent un peu plus récents que nous et beaucoup plus petits parce que je crois qu'ils communiquent sur 6000 logements. Il y a d'autres concurrents comme par exemple Mind Twin Place qui est aussi créé par des Français et qui est basé à Barcelone. Et nous, on trouve ça formidable qu'il y ait la concurrence comme ça. Alors bien sûr, ils sont pas encore dans le trio de tête qui est un Français, un Américain et un Britannique, nous-mêmes étant le Français. Mais c'est super qu'il y ait la concurrence sur le secteur.
Alors comment je fais concrètement, je veux devenir membre de votre réseau social, donc je m'y inscris, je veux préparer ma maison. Quels sont vos conseils ?
Alors déjà, pour s'inscrire, c'est très simple et c'est gratuit, c'est important de le rappeler. Donc vous allez sur notre site, vous inscrivez en quelques clics, vous remplissez votre page de profil et votre page de maison avec des photos, aussi bien pour vous que pour votre maison, et quelques détails sur la maison, par exemple les équipements qu'il peut y avoir, ou bien le quartier, etc. Et une fois que vous avez inscrit l'ensemble des informations sur votre profil et sur votre maison, le site va vous donner un certain nombre de guest points, cette monnaie virtuelle donc qui permet de partir d'ores et déjà chez quelqu'un. Donc vous allez contacter
donc
quelqu'un.
Avant même que quelqu'un vienne chez moi, le fait même de mettre mon appartement ou ma maison sur le site me rapporte des points.
Exactement, vous avez tout compris. On vous donne en fait les guest points qui vont vous permettre de partir une première fois. Alors ensuite, vous allez contacter des membres dont les maisons vous plaisent et eux peuvent vous répondre trois choses. Non, je ne suis pas intéressé par un échange de maison. Point avec vous. Deuxièmement, oui, je suis intéressé. Faisons un échange réciproque, qu'il soit ou non simultané, c'est-à-dire qu'on peut faire un échange où je vais chez vous à Pâques et vous venez chez moi à Noël. Et enfin, certains vont vous dire, et c'est la majorité des échanges sur Guest to Guest, oui, venez chez moi, mais donnez-moi des guest points. Avec ces guest points, moi, je vais aller chez quelqu'un.
Voilà, il n'y a pas la réciprocité obligatoire. Exactement. Comme dans la plupart des sites d'échange de maisons. Est-ce que vous venez vérifier les maisons qui sont mises sur le site?
Alors tout à fait. Alors ça, c'est un des points intéressants du business model de Guest to Guest, parce qu'on est un site gratuit à inscription, gratuit à l'échange, mais il faut quand même qu'on ait une manière de faire du chiffre d'affaires. Et l'une de nos manières, c'est d'offrir un service de vérification qui coûte 25 €. Si vous souhaitez devenir membre vérifié de Guest to Guest, vous allez régler ces 25 €, nous envoyer un justificatif de domicile et une preuve d'identité. Et en échange de tout cela, vous aurez un nombre de guest points qui vous seront alloués. 500 guest points supplémentaires vous seront alloués. Votre maison sera identifié comme vérifié et remontera dans les résultats de recherche.
Il y a un photographe qui vient ou c'est vous qui, enfin c'est moi ou les membres qui prennent les photos de la maison ou de l'appartement?
Alors ce sont les membres qui prennent les photos de la maison et c'est quelque chose auquel on tient parce que ça donne un site qui graphiquement peut être moins beau que des sites de location qui utilisent des photographes professionnels.
Avec des grands angles.
Voilà, exactement. Mais un peu plus authentique, c'est-à-dire que quand on regarde une photo sur un site de location, on sait bien que le photographe s'est mis dans un coin de la pièce avec un appareil grand angle et que ça a été retouché sur Photoshop, alors que là c'est des photos très authentiques et donc qu'on en aura pour ce qu'on pensait avoir.
Alors, c'est tout ça est très séduisant. La grosse crainte, c'est évidemment, je vais confier ma maison à des inconnus. Quelles garanties vous offrez ?
Alors, tout d'abord, c'est pas forcément des inconnus, vu qu'on a un réseau social et qu'il peut y avoir des amis d'amis. Voilà. Mais ensuite, quelles garanties on offre ? On a deux services qui sont optionnels sur Guest to Guest. Un premier service qui est un service de caution. Le montant moyen de la caution est de 500 € sur Guest to Guest, sur lequel nous, le site, allons prélever une commission de 3,5%, donc de 17,50 € sur le montant moyen de 500 €. Et la caution, ça permet de gérer tous les petits tracas du quotidien. c'est-à-dire un vase cassé, voire un rétroviseur cassé, parce qu'on a 15% de nos membres qui prêtent leur voiture en même temps que leur maison, ce qui est quand même important à souligner. Et aujourd'hui, on a un taux de caution qui est rendu en entier supérieur à 99%. Donc ça se passe extrêmement bien sur les cautions.
C'est vous qui faites l'intermédiaire en cas de dégâts, en
voilà,
cas de casse.
Exactement. On aide l'hôte et l'invité à trouver un chiffre sur lequel se mettre d'accord par rapport au chiffre de la caution. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de problème. C'est-à-dire que les gens sont de bonne foi. Et de nouveau, on rentre dans cette idée d'une relation différente de celle qu'il y a sur un site commercial où il y a de l'argent qui est échangé entre l'hôte et l'invité. C'est-à-dire que dans la mesure où votre hôte vous a invité de manière gratuite, eh bien, vous avez pas envie de l'arnaquer. Donc, si vous avez cassé un vase, vous allez lui dire. Et ensuite, le deuxième service que l'on offre, c'est de l'assurance. De nouveau, ce service est optionnel, mais si vous choisissez de prendre de l'assurance, là, de nouveau, Guest to Guest aura une commission qui est incluse dans le prix de l'assurance, qui commence à 4 euros par jour.
On a vu Airbnb s'attirer les foudres, parfois, des autorités locales. Est-ce que votre système est légal absolument partout ?
Oui, alors, donc absolument partout. Sur l'ensemble des 187 pays, je ne peux pas vous le garantir parce qu'on n'a pas fait une étude juridique sur l'ensemble des 187 pays. En revanche, pour ce qui est du territoire français, c'est très clairement légal partout. Il faut bien comprendre la différence de nature qui est faite en droit entre une location et un prêt. Dans la mesure où il y a de l'argent qui passe de la main à la main dans le cadre d'une location, le propriétaire doit en être informé parce qu'il y a un changement de destination par rapport au contrat de location. Dans le cadre d'un prêt, à moins que le contrat de location stipule de manière explicite que le prêt n'est pas autorisé, ce qui est très très rare, mais qui peut arriver par exemple dans les HLM. Donc si ce n'est pas de manière explicite interdit dans le contrat, c'est que c'est autorisé, et même que le locataire n'a pas besoin de prévenir son propriétaire. Donc le droit français fait vraiment une énorme différence entre la location et l'échange de maison ou le prêt. Et par ailleurs, lorsque vous évoquiez les autorités locales, il faut voir aussi que l'échange de maison va être pratiqué par des personnes dont c'est soit le logement principal, soit que c'est une résidence secondaire qui leur sert de lieu de villégiature. Mais on ne va pas avoir le type de distorsion qu'il peut y avoir avec des acteurs qui sont sur la location.
Oui, des investisseurs.
Voilà, des investisseurs.
Acheter des appartements pour ne les louer exclusivement que sur Airbnb ou à la location.
Voilà, exactement. Il n'y aura pas de concurrence avec les Parisiens, par exemple, sur les appartements du Marais, parce que c'est un exemple qu'on prend souvent.
Donc si tout est gratuit, c'est quoi votre business model ? Comment vous vous rémunérez ?
Alors, donc tout n'est pas complètement gratuit, mais tout est optionnel en fait. Ça c'est très important pour nous, parce qu'on pense que l'échange de maison, en fait, le plus grand acte qui est posé n'est pas celui du site qui met à disposition sa base de données, mais c'est bien celui de la personne qui ouvre sa porte. Et on comprend que cet acte-là, c'est finalement l'acte fondateur de l'échange de maison, c'est le fait d'ouvrir sa porte. Et donc tous les services qui sont payants sur Guest to Guest vont être optionnels. Il y en a trois dont on a commencé à parler ensemble. Le premier, c'est la vérification, qui intervient une fois pour toutes, 25 euros. Et ensuite, il y en a deux qui interviennent au moment de chaque échange et qu'on peut choisir ou non de mettre en place pour chaque échange, qui sont la caution d'une part, avec une caution de 3,5% sur le montant de la caution, et d'autre part, l'assurance.
La consommation, l'économie collaborative est parfois critiquée pour son impact négatif, notamment sur le tourisme un peu traditionnel. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors moi déjà, ce que je vois, c'est que grâce à Guest to Guest, on a des personnes qui ne partaient pas en vacances, qui partent en vacances. Et ça c'est simple, on le sait parce que nos membres nous le disent. Vous le savez vous-même, lorsqu'on part en vacances, le premier budget, c'est le logement. 29% du budget des vacances. Et le deuxième budget, c'est la nourriture qu'on peut sensiblement faire diminuer lorsqu'on a un endroit pour pouvoir faire sa cuisine de manière normale. Donc le premier impact de l'économie collaborative, en tout cas de Guest to Guest, de l'échange de maison, c'est de permettre à plus de personnes de partir en vacances et donc à plus de personnes de faire tourner l'économie sur les lieux où ils se trouvent. Ensuite, est-ce qu'on est en concurrence frontale avec l'hôtel ou avec les campings ou avec les autres manières ou la location de partir en vacances ? Oui, parce que il y a des nuitées et donc ces nuitées-là, certaines vont venir chez nous. Maintenant, c'est quand même un type de concurrence qui est très très différent des sites de location, par exemple dans l'économie collaborative, qui sont vers une industrialisation finalement où des acteurs ne sont plus vraiment des particuliers, mais deviennent des quasi-entreprises. en investissant, comme nous le disions, dans des appartements qui ne servent qu'à être loués. Alors que nous, ce sont des familles qui, plutôt de laisser un appartement vide avec tous les risques que cela comporte et aussi l'impact économique sur le tissu local autour de l'appartement, cet appartement il va être plein avec d'autres personnes qui seront prêtes à consommer.
Combien de personnes travaillent aujourd'hui chez Guest to Guest?
Aujourd'hui, on est 20 et on sera une trentaine d'ici décembre.
Donc vous embauchez?
On embauche.
En ce moment même?
En ce moment même.
Appel, hein?
Tout à fait.
Chiffre d'affaires, une estimation peut-être pour cette année?
Alors, on communique pas sur nos chiffres d'affaires, mais un chiffre financier qui vous intéressera sans doute. On a levé 4 millions d'euros avec la Maïf il y a 3 mois, après une levée d'un million d'euros il y a 15 mois environ.
Donc pour financer l'expansion internationale?
Voilà, et exactement, pour aller chercher, tout d'abord pour embaucher, comme on en parlait à l'instant, et aussi pour aller recruter des membres à l'international. Vous l'avez souligné, on est très présent en Europe, on pourrait être plus présent dans les pays anglo-saxons. C'est très clairement notre objectif.
Merci Emmanuel Arnaud d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs du premier réseau d'échange de maisons en ligne, Guest to Guest.
Merci Delphine.